Lénine, le 3 décembre 1905, socialisme et religion. La société moderne est entièrement fondée sur l'exploitation des grandes masses de la classe ouvrière par une infime minorité de la population appartenant aux classes des propriétaires fonciers et des capitalistes. C'est une société d'esclavagistes, car les ouvriers « libres » entre guillemets, travaillant toute leur vie pour le capital, n'ont droit, entre guillemets, qu'aux moyens d'existence indispensables à l'entretien d'esclaves produisant des bénéfices, afin d'assurer et de perpétuer l'esclavage capitaliste. L'oppression économique des ouvriers provoque et engendre incontestablement diverses formes d'oppression politique, d'avilissement social, d'abrutissement et d'obscurcissement de la vie intellectuelle et morale des masses. Les ouvriers peuvent obtenir plus ou moins de liberté politique pour la lutte en vue de leur affranchissement économique, mais aucune liberté ne les débarrassera de la misère, du chômage et de l'oppression aussi longtemps que le pouvoir du capital ne sera pas aboli. La religion est un aspect de l'oppression spirituelle qui pèse toujours et partout sur les masses populaires, accablées par le travail perpétuel au profit d'autrui, par la misère et la solitude. La foi en une vie meilleure dans l'au-delà naît tout aussi inévitablement de l'impuissance des classes exploitées en lutte contre les exploiteurs que la croyance aux divinités, au diable, au miracle, etc., naît de l'impuissance du sauvage en lutte contre la nature. La religion, berçant de l'espoir d'une récompense céleste, celui qui peine toute sa vie dans la misère, lui enseigne la patience et la résignation. Quant à ceux qui vivent du travail d'autrui, elle leur enseigne à pratiquer la bienfaisance ici-bas, leur offrant ainsi une justification aisée de toute leur existence d'exploiteur, leur vendant à bon compte des cartes de participation à la félicité céleste. La religion est l'opium du peuple. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. La religion est l'opium du peuple. Fermez les guillemets. Cet aphorisme, tiré de la critique de Marx de la philosophie hegélienne du droit, 1844, entre parenthèses, fut gravé après la victoire de la Révolution d'octobre 1917 sur le mur en face de la célèbre chapelle de Notre-Dame d'Ibérie à Moscou. Note du rédacteur, entre parenthèses. Fin de la note de bas de page. La religion est une espèce grossière d'eau-de-vie spirituelle dans laquelle les esclaves du capital noient leur être humain et leurs revendications pour une existence tant soit peu digne de l'homme. Mais l'esclave qui a pris conscience de sa condition et s'est élevé à la lutte pour son affranchissement cesse déjà à moitié d'être un esclave. L'ouvrier conscient d'aujourd'hui, formé par la grande industrie usinière, instruit par la ville, écarte avec mépris les préjugés religieux, laisse le ciel aux prêtres et aux tartuffes bourgeois et s'attache à la conquête d'une meilleure existence sur la terre. Le prolétariat moderne se rallie au socialisme qui combat par la science les fumées de la religion, organise l'ouvrier dans la lutte véritable pour une meilleure condition terrestre et le libère de la croyance en la vie future. La religion doit être déclarée chose privée. C'est ainsi qu'on traduit ordinairement l'attitude des socialistes à l'égard de la religion. Mais il importe de déterminer exactement la signification de ces mots, afin d'éviter tout malentendu. Nous exigeons que la religion soit une affaire privée vis-à-vis de l'État. Mais nous ne pouvons, en aucune façon, considérer la religion comme une affaire privée par rapport à notre propre parti. L'État ne doit pas se mêler de religion, Les sociétés religieuses ne doivent pas se rattacher à l'État. Chacun doit être libre de professer n'importe quelle religion ou de n'en reconnaître aucune, c'est-à-dire d'être athée, comme le sont généralement les socialistes. Aucune différence de droit civique motivée par des croyances religieuses ne doit être tolérée entre citoyens. Toute mention de la confession des citoyens dans les actes officiels doit être absolument supprimée. Aucune subvention ne doit être accordée à l'Église nationale, non plus qu'aux associations paroissiales et confessionnelles qui doivent devenir des associations de citoyens coreligionnaires, entièrement libres et indépendantes à l'égard du pouvoir. Seule la réalisation totale de ces revendications peut mettre fin à ce passé honteux et maudit où l'Église était asservie à l'État, les citoyens russes étant à leur tour asservis à l'Église d'État, où étaient appliquées des lois inquisitoriales moyenâgeuses, ouvrez la parenthèse, maintenues jusqu'à ce jour dans nos codes et juridictions pénales, fermez la parenthèse, qui persécutaient la croyance ou l'impiété, qui violentaient la conscience de l'homme, rattachaient les sinécures et prébendes administratives à tel ou tel stupéfiant distribué par l'Église. La séparation complète de l'Église et de l'État, telle est la revendication que formule actuellement le prolétariat socialiste à l'égard de l'État et de l'Église. Note de bas de page. Lénine exprime la même idée dans sa brochure « Aux paysans pauvres » datant de 1903. Ouvrez les guillemets. Ensuite, les social-démocrates réclament pour chacun le droit de professer, en toute liberté, la religion qui lui plaît. De tous les pays européens, seules la Russie et la Turquie maintiennent des lois infâmes contre ceux qui pratiquent une religion autre que la religion d'État, contre les vieux croyants. Note. Les vieux croyants ou dissidents, entre parenthèses, se séparèrent au XVIIIe siècle de l'Église orthodoxe officielle. Ils s'en tenaient aux anciennes écritures et traditions, répudiant en même temps la centralisation politique, voire même le pouvoir des tsars, la bureaucratie, la levée des recrues, etc. Ils prirent une part active au soulèvement de Razine et de Pougatchev. Aussi était-il fortement persécuté par le gouvernement et par l'Église. Note de la rédaction. Fin de note. Retour à la note de bas de page. De tous les pays européens, seule la Russie et la Turquie maintiennent des lois infâmes contre ceux qui pratiquent une religion autre que la religion d'État, contre les vieux croyants, les sectaires, les juifs. Ces lois interdisent en général telle ou telle confession ou défendent de la propager et privent les partisans de certaines croyances de divers droits. Toutes ces lois sont absolument injustes, atroces et ignominieuses. Il faut que chacun ait pleine liberté, non seulement d'embrasser la religion qu'il veut, mais aussi de propager n'importe quelle religion et de changer de religion. Il ne doit être permis à aucun fonctionnaire de s'enquérir de la religion de qui que ce soit, celle-ci étant affaire de conscience. Nul ne doit s'y immiscer. Il ne doit y avoir ni religion « dominante » entre guillemets, ni église « dominante » entre guillemets. Toutes les croyances religieuses et toutes les églises doivent être égales devant la loi. Les ministres des différents cultes peuvent être entretenus par les fidèles, mais l'État ne doit soutenir avec les fonds publics aucun culte, ni payer les serviteurs des différentes confessions, qu'il s'agisse d'orthodoxes, de vieux croyants, de sectaires ou autres. Voilà pourquoi luttent les social-démocrates. Et aussi longtemps que ces mesures ne seront pas appliquées sans ambage ni subterfuge, le peuple ne pourra pas s'affranchir des infâmes persécutions policières pour cause de religion, ni des aumônes policières, non moins infâmes, en faveur d'une croyance déterminée. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Lénine, œuvre complète, première édition russe, tome 5, page 418, fermez la parenthèse, note du rédacteur, fin de la note de bas de page. Donc, la séparation complète de l'Église et de l'État, telle est la revendication que formule actuellement le prolétariat socialiste à l'égard de l'État et de l'Église. La révolution russe doit réaliser cette revendication comme partie intégrante, indispensable de la liberté politique. Sous ce rapport, la révolution russe est placée dans des conditions particulièrement favorables. Le détestable régime bureaucratique de l'autocratie féodale ayant provoqué le mécontentement, la fermentation et la révolte dans le clergé même. Si misérable, si ignorant qu'ait été le clergé orthodoxe russe, il a été, lui aussi, réveillé par le fracas de la chute de l'ancien régime moyenâgeux de la vieille Russie. Lui aussi se rallie à la revendication de liberté, s'élève contre la bureaucratie officielle, l'arbitraire administratif, le mouchardage policier imposé au « ministre de Dieu », entre guillemets. Socialistes, nous devons appuyer ce mouvement en poussant jusqu'au bout les revendications des éléments honnêtes et sincères du clergé, en les prenant au mot quand ils parlent de liberté, en exigeant d'eux qu'ils brisent résolument tout lien entre religion et police. Ou bien vous êtes sincère et vous devez dès lors réclamer la séparation complète de l'Église et de l'État, de l'école et de l'Église, et demander que la religion soit décrétée absolument et uniquement chose privée, ou bien vous ne souscrivez pas à ces revendications logiques de la liberté, c'est qu'alors vous êtes toujours prisonnier des traditions inquisitoriales, que vous vous accrochez toujours aux petites sinécures et prébendes administratives de l'État, que vous ne croyez pas à la puissance de vos armes spirituelles, que vous continuez à accepter les pots de vin de l'État, et alors les ouvriers conscients de toute la Russie vous déclarent une guerre sans merci. Pour ce qui est du parti du prolétariat socialiste, la religion n'est pas une affaire privée. Notre parti est une association de militants conscients, de combattants d'avant-garde pour l'émancipation de la classe ouvrière. Cette association ne peut pas et ne doit pas rester indifférente à l'inconscience, à l'ignorance ou au sombre fanatisme sous la forme de croyances religieuses. Nous réclamons la séparation complète de l'Église et de l'État afin de combattre les ténèbres de la religion avec des armes purement et exclusivement idéologiques, notre presse, notre propagande. Mais nous avons fondé notre association, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, entre autres, pour combattre précisément tout bourrage de crâne des ouvriers par la religion. Pour nous, la lutte des idées n'est pas une affaire privée. Elle intéresse l'ensemble du parti et du prolétariat. S'il en est ainsi, pourquoi ne nous déclarons-nous pas athées dans notre propagande? Pourquoi n'interdisons-nous pas aux chrétiens et aux croyants l'accès de notre parti? La réponse à cette question fera ressortir la différence très importante entre le point de vue de la démocratie bourgeoise et celui de la social-démocratie sur la religion. L'explication de notre programme comprend donc nécessairement aussi l'explication des véritables causes historiques et économiques du travail d'intoxication religieuse. notre propagande comprend nécessairement celle de l'athéisme. La publication à cette fin d'une littérature scientifique que le régime autocratique et féodal a proscrite et poursuivie sévèrement jusqu'à ce jour, doit devenir, dès maintenant, une des branches de l'activité de notre parti. Dès lors, nous aurons probablement à suivre le conseil qu'Engels donna un jour aux socialistes allemands, à savoir de traduire et de diffuser parmi les masses la littérature athée des encyclopédistes français du XVIIIe siècle. Mais nous ne devons en aucun cas tomber dans les abstractions idéalistes de ceux qui posent le problème religieux au point de vue de la « raison pure », entre guillemets, en dehors de la lutte des classes, comme le font souvent les démocrates radicaux bourgeois. Il serait absurde de croire que, dans une société fondée sur l'oppression sans fin et l'abrutissement des masses ouvrières, les préjugés religieux puissent être dissipés par le seul moyen de la propagande. Oublier que l'oppression religieuse de l'humanité n'est que le produit et le reflet de l'oppression économique au sein de la société serait faire preuve de médiocrité bourgeoise. Ni livre, ni prédication n'éclaireront le prolétariat s'il n'est pas éclairé par la lutte qu'il soutient lui-même contre les forces occultes du capitalisme. L'unité de cette lutte réellement révolutionnaire de la classe opprimée, pour se créer un paradis sur terre, nous importe plus que l'unité d'opinion des prolétaires sur le paradis du ciel. Voilà pourquoi nous ne proclamons, ni ne devons proclamer notre athéisme dans notre programme. Note de bas de page. Ainsi, le projet de programme du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, rédigé par Lénine et Plekhanov en 1903, comportait seulement, ouvrez les guillemets, la séparation de l'Église et de l'État, de l'école et de l'Église, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, confère Lénine, œuvre complète, première édition russe, page 526, fermez la parenthèse. Le projet de modification du programme du parti, 1917, entre parenthèses, ajoutait à ces mots, ouvrez les guillemets, laïcisation complète de l'école, fermez les guillemets, note du rédacteur, entre parenthèses, fin de la note de bas de page. Donc, voilà pourquoi nous ne proclamons ni ne devons proclamer notre athéisme dans notre programme. Voilà pourquoi nous ne refusons pas et ne devons pas refuser l'accès du parti aux prolétaires qui gardent certains vestiges de vieux préjugés. Nous travaillerons toujours à propager la philosophie scientifique. Combattre l'inconséquence de je ne sais quel « chrétien » entre guillemets nous est nécessaire. Mais cela ne veut point dire qu'il faille réserver aux problèmes religieux une place d'honneur qui ne leur appartient pas, ni qu'il faille accepter l'éparpillement des forces de la lutte économique et politique réellement révolutionnaire au nom d'opinions et d'insanités de troisième ordre qui perdent rapidement toute signification politique et sont promptement mises au rebut en vertu du développement économique. Partout la bourgeoisie réactionnaire a eu soin, et elle commence à en avoir soin aussi chez nous, d'attiser les haines religieuses pour détourner l'attention des masses des problèmes économiques et politiques réellement importants et fondamentaux que tranche pratiquement aujourd'hui le prolétariat russe s'organisant dans la lutte révolutionnaire. Cette politique réactionnaire de morcellement des forces prolétariennes qui aujourd'hui se traduit partout dans les pogroms fomentés par les sangs noirs, note de bas de page, les sangs noirs entre guillemets. On appelait ainsi les bandes formées par l'Union du peuple russe, ouvrez la parenthèse, créée en octobre 1905, fermez la parenthèse, et par d'autres organisations ultra-réactionnaires et composée d'éléments déchus du prolétariat. Ces bandes se livrèrent à des pogroms contre les Juifs et d'autres minorités nationales, ainsi que contre les ouvriers révolutionnaires et les intellectuels. Note de la rédaction. Fin de la note de bas de page. Donc, cette politique réactionnaire de morcellement des forces prolétariennes, qui aujourd'hui se traduit partout dans les pogroms fomentés par les sangs-noirs, demain peut-être imaginera des formes plus raffinées. Nous lui opposerons, dans tous les cas, la propagande calme, ferme et patiente, exempte de tout désir de susciter des désaccords secondaires, de la solidarité prolétarienne et de la philosophie scientifique. Le prolétariat révolutionnaire finira par faire admettre que la religion devienne pour l'État une affaire privée. Et, dans ce régime politiquement débarrassé de la moisissure moyenâgeuse, le prolétariat engagera une large lutte ouverte pour la suppression de l'esclavage économique, cause véritable de l'abêtissement religieux de l'humanité. Novaïa Gizne, La vie nouvelle, entre parenthèses, numéro 28, 16-3 décembre 1905, signé N. Lénine.